La première. 18h15, 19h, le samedi. Le fantôme de la radio. Eric Lauze.
Bonsoir. C'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Cela fait tellement longtemps que je fréquente ces lieux chargés de son et de lumière. Cette grande maison, comme on l'appelle encore quelquefois, je la connais comme ma poche. Invisible de jour comme de nuit, j'ai baladé ma frêle silhouette un peu partout entre ces murs. Bien caché dans l'ombre des studios, j'ai assisté incognito à des milliers d'émissions tant en radio qu'en télévision. Vous ne me croirez peut-être pas, mais personne ne sait qu'un fantôme hante ces lieux et observe tout ce qui s'y passe. Personne, sauf vous, chers auditeurs, à qui je confie chaque semaine un récit inspiré de mes lointains souvenirs. Si toutefois vous avez un doute quant à mon existence, je vous conseille de rester bien à l'écoute. Seule une ombre qui a traversé les âges peut vous raconter l'histoire que vous allez entendre ce soir. Pendant l'été 1969, les habitants des Marolles, quartier populaire de Bruxelles-Ville, se rebellent contre la décision de raser une partie de leur quartier afin de construire une annexe au palais de justice. Alors que le combat semble perdu d'avance, les Maroliens ne baissent pas les bras. Très attachés à leur mode de vie, à la communauté qu'ils forment tous ensemble, ils sont déterminés à sauver leur habitat et le font savoir. Cette lutte a priori inégale contre les autorités et promoteurs immobiliers alerte les médias et l'opinion publique. Sous la pression, le projet d'extension du palais de justice est abandonné. Si les Maroliens remportent cette bataille, bien d'autres luttes seront perdues à Bruxelles, notamment dans le quartier Nord et le quartier Schumann, où l'habitat sera progressivement et impitoyablement détruit malgré la mobilisation des habitants. Voici le récit de batailles citoyennes autour de ce que l'on a nommé plus tard la bruxellisation, à savoir la défiguration de Bruxelles par les promoteurs immobiliers. Nous sommes en été à Bruxelles en 1969. Le tumulte du train-train quotidien fait place à une certaine nonchalance. Le soleil et la chaleur invite les habitants à vivre au ralenti, au rythme des vacances. La capitale marque une pause dans tous les quartiers, sauf dans les Marolles. Dans ce quartier populaire de Bruxelles-Ville, c'est l'effervescence. Depuis le mois de juin de cette année 1969, les habitants se mobilisent contre un projet d'extension du palais de justice. Cet énorme chantier implique l'expropriation, la destruction d'une partie du quartier des Marolles et la délocalisation de ses habitants. Pour les promoteurs immobiliers et les autorités à la base de ce projet, le quartier des Marolles n'est qu'un ramassis de taudis insalubres que rien ne peut sauver de la destruction. Du côté des Maroliens, très attachés à leur quartier et à leur mode de vie, on voit évidemment les choses autrement. Il n'est pas question de partir, la résistance s'organise au sein d'un comité de quartier.
Nous sommes toujours décidés à nous battre jusqu'au bout pour rester dans la Marolle. Oui. Merci. Y en a-t-il qui sont contre? Sommes-nous d'accord pour continuer à envoyer des télégrammes de protestation au ministre aussi longtemps qu'il le faudra? Oui. S'il n'y a pas de décision définitive avant la fin août, est-on d'accord pour qu'au début du mois de septembre, on lance une pétition générale dans le quartier?
C'est pourtant pas difficile à comprendre, hein? Mais il y a des types qui comprennent rien. Et je lis, dans l'hebdomadaire là, dont Roger avait parlé, qu'il paraît qu'ici nous sommes des indécents, que nous vivons dans la misère, dans la poussière, dans l'inconfort, dans la crasse, dans la crasse. de maisonnette branlante. Hein? Ça, vous ne saviez pas, hein? Mais lui, il le sait. Ah, heureusement. Alors, vous voyez, la seule chose de bonne dans le quartier qu'il a vue, c'est qu'on avait des vieilles habitudes et des petits métiers. Évidemment, nous, on ne construit pas des tours, hein? Ni des parkings. Ça, c'est pas notre genre. Alors, ce sont des petits métiers.
À la tête du comité d'action, un homme se distingue. C'est Jacques Van der Biest, le vicaire des Marolles. En quelques jours, il est parvenu à mobiliser les habitants et à leur faire prendre conscience que leur avis avait de l'importance.
C'est très important d'agir très rapidement, hein, de ne pas se laisser tout doucement embobiner et que le processus se développe, hein, parce que plus il est évidemment, hein, plus il est avancé, plus il est difficile à arrêter.
Jacques Van der Biest, vicaire des Marolles.
Alors le 7 juillet, on a demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'expropriation? Parce qu'alors nous avons une action à mener pour obtenir votre relogement dans des bonnes conditions, les allocations auxquelles vous avez droit, etc. Hein? C'est un premier type. Hein? Ou bien est-ce que vous voulez être relogé ensemble? C'est une autre. Hein? On transporte tout le quartier et on le met en Zoutenaille. Ou... C'est pas moi. Hein? Bon, ça c'est encore une possibilité. Hein? Ou bien est-ce qu'à votre avis... il est mieux de rester ici. Enfin, là, la réponse était tout à fait unanime. Hein. Je n'ai pris connaissance d'aucune, absolument, aucune opposition. Les gens disent, nous voulons rester ici. Enfin, c'était extrêmement simple. Nous voulons rester ici. Point à la ligne.
C'était une procédure un peu bizarre de demander l'avis des gens. En somme, ça ne se fait plus.
Ça, c'est évident. Ça, c'est tout à fait exact. On nous l'a d'ailleurs beaucoup reproché. Hein? Hein, pourquoi mêler la population à ça? Hein? Venez nous trouver, expliquez-nous vos problèmes. Hein? Et nous sommes tellement compréhensifs. Hein? Hein? Nous serions arrangés. Hein? Pourquoi faire tant de bruit là autour? Hein? Ça, on nous a reproché. Tous ceux qui ont quelques responsabilités d'animation ici dans le quartier sont tout à fait d'accord. Il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut dire... ils ont tellement l'habitude qu'on leur tape dessus et que... qui n'ont aucune défense, qui sont sans réponse devant les coups qu'on leur donne, que ces gens se disaient, ben, il faut partir. Ils étaient tous persuadés qu'il fallait partir, enfin, hein, tout en voulant tous rester ici. Mais ils se disaient, mais on ne réussira jamais, enfin, nous sommes des pauvres, on est des petits, on est... Enfin, on ne nous considère pas, etc. Vous voyez un peu la ligne, hein, on n'a pas d'argent, hein, ce qui est le vice le plus fondamental dans notre société, hein, pas d'argent, donc, hein, on ne vaut rien. Alors, on va nous expulser, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on veut rester. Alors, au fond, une bonne partie de notre travail a été de leur dire, mais si vous voulez rester, vous resterez. Nous vivons une société qui, au moins formellement, prétend à la démocratie.
À cette époque, en 1969, les Marolles ont mauvaise réputation. Habitation insalubre, population misérable, insécurité, des clichés qui ont la vie dure. Pourtant, on n'y vit pas si mal. Les Maroliens exercent ce qu'ils appellent des professions libérales. Ils sont ferrailleurs, chiffonniers ou brocanteurs. Ils aiment leur quartier, ils en sont fiers et n'ont aucune envie de le quitter.
Ce qui est très nouveau ici, c'est un peu la mobilisation, on peut dire, ça,
du quartier. Mobilisation, oui. Les gens se tiennent assez bien l'un près de l'autre. Ils aiment bien leur quartier, ils aiment bien leurs habitudes.
Les gens du quartier vous considèrent un peu comme un boss ici, un peu le roi des chiffonniers, allez.
Un petit roi, pas trop lourd. Enfin.
Les gens ne sont pas tellement pauvres, on dit que ce sont tous des gens pauvres ici.
Non, ils ne sont pas pauvres.
Oh,
ils sont bien.
On gagne bien sa vie pour ici.
Ils gagnent leur vie, vivent tous.
On vit ici, c'est pour ça qu'on gagne sa vie, qu'on veut rester ici.
Ils ne sont pas des gens pauvres, parce que, d'ailleurs, je vais vous dire, tous ceux qui font ce métier et tous ceux qui font la récupération ne sont pas des gens qui émergent de l'assistance publique. Ce sont des gens qui gagnent leur vie, qui partent le matin, ils reviennent le midi avec leur petite tournée, gagnent leur petite vie. C'est tout.
Vous les connaissez bien ici, les gens vivent ensemble, ils s'entendent bien.
Ils s'entendent très bien.
Ils se disputent un peu.
Mais ça, c'est comme partout, hein, la discussion, tout ça, hein.
Vous êtes propriétaire, monsieur de Grec?
Oui, je suis propriétaire. J'ai 5 immeubles ici, 3 fronts de rue, avec le magasin qui traverse, et qui viennent rue des prêtres, qui font donc un bloc de 9 heures.
Oui. D'un certain côté, est-ce que ce ne serait pas votre intérêt de vendre? Au point de vue argent, disons.
Peut-être bien, mais ça ne m'intéresse pas. Ceci a été construit par mes parents, et nous voulons garder ça. Et nous voulons rester en contact avec nos locataires, nos clients qui sont des amis. Quoi. Ça ne nous intéresse pas de vendre. Le reclassement de cet argent, il peut toujours très bien se faire parce qu'en expropriation, c'est toujours bien payé. Mais moi, je n'ai pas de vieux immeubles. Ce sont tous des immeubles très, très bien. Tout le monde a l'eau, tout le monde a tout ce qu'il faut chez eux. Ils ont le WC, ils ont l'eau, ils ont toutes les commodités. Hein.
Et si les ministres veulent abattre la maison, eh bien, chez moi, c'est pas difficile. Je laisse mes meubles pour eux. Je prends deux valises, ma télévision et mon chien dans le cou et je suis parti. Et je vais chez eux habiter alors. Je vais demander s'ils veulent pas me loger, moi et mes deux gosses.
Oui, mais là, tu seras pas contente, c'est le sien.
Ah ben, on sera pas content nulle part.
C'est pas ton geste.
Ah ouais, mais on n'est pas content nulle part.
Nous, on vit entre nous.
Marie, nous, on est habitués sur notre marron. On est né ici, qu'est-ce que tu veux? Où on va être content. Et l'on te même dit qu'il nous relogerait, alors qu'il nous donne des meubles.
La bataille des Marolles fait rage durant tout l'été de cette année 1969. À coups de pétitions, affiches ou manifestations, les habitants du quartier attirent l'attention des médias et des Bruxellois.
On a pris toute une série de décisions. Hein.
Jacques Van Der Beest.
On a pris notamment l'opération Vaquin, c'est-à-dire que c'était notre première réaction. Hein. C'est de dire, voilà, très gentiment d'ailleurs, hein, absolument, ça, pas du tout avec des coups, mais de dire au moment où le commissaire se présente, voilà, on n'est pas là, quoi. On n'est pas là. Il est parti en vacances, hein, hélas. Hier, il est parti. Quoi. Ah, mais pas de chance, hein, vraiment pas de chance. Hein. Et de procéder comme ça systématiquement, de façon à ce que le commissaire se rende compte qu'il n'était pas tellement bien reçu, quoi.
Oui, enfin, les gens descendaient leur volet, c'est ça
C'est ça, hein, on m'était absent, quoi. Et les voisins, par contre, étaient tous là, quoi. Et disaient, non, il est parti, quoi. Il est en vacances, c'est son droit, quoi, c'est le mois des vacances, hein. Lui aussi doit se reposer, etc. Alors, ça, c'était une première, hein. Alors, le placement d'affiches, hein, de mettre des affiches... On a choisi ce slogan, non, hein, qui est évidemment, enfin, on peut nous reprocher, on n'a pas manqué de le faire, un peu infantile. Hein. Il y a un âge de la vie, on dit toujours non. Hein. Enfin, c'était la première attitude à prendre, quoi. Hein, non.
Sous la pression des Maroliens et de l'opinion publique, le projet d'extension du palais de justice et par conséquent l'expropriation sont annulés. Les Maroliens procèdent alors aux obsèques symboliques de promoteurs, de son épouse fidèle bureaucratie et de leur enfant expropriation. Un long cortège défile dans le quartier au son de la marche funèbre. Une plaque commémorative est apposée sur la chapelle de l'abbé Van Der Beest, rue de Montserrat. Elle s'y trouve toujours. Mais gagner une bataille, ce n'est pas forcément remporter la victoire totale. Au cours d'une réunion du comité d'action, l'abbé Van Der Beest met la population en garde.
Nous avons gagné, mais nous n'avons gagné que la première manche. Nous avons remporté la victoire et je pense qu'on peut la célébrer, mais ce n'est qu'une première victoire. Ce qu'il faut, c'est la gagner tout à fait, gagner toute la bataille. Ça ne sert à rien de gagner une première victoire pour se faire battre un peu plus loin. Nous avons à faire attention à une espèce que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle le promoteur privé. Ça, c'est l'homme dangereux par excellence. Ce sont eux qui s'emparent de la ville pour faire devenir que cette ville soit en fait à leur service, pour se remplir les poches à notre compte. Parce que la ville appartient à tout le monde. La ville n'appartient pas à un homme. Et ces hommes construisent n'importe où, n'importe quoi. Il y a déjà des projets sur notre quartier. Il n'est pas encore... On n'a pas encore acheté une seule maison. Hein. Déjà, il y a des projets. Des projets faramineux. Hein. Des tours, bien entendu. En sous-sol, gare de triage, poste, cinéma, théâtre, tout ce que vous voulez. C'est déjà... On y pense déjà.
Cette année-là, les téléspectateurs de la RTB ont pu suivre toute l'affaire dans un documentaire de faits divers, une émission très populaire et très suivie à l'époque. Un duo de réalisateurs, Pierre Manuel et Jean-Jacques Péché, travaillent véritablement en immersion dans le quartier. Ils choisissent de donner la parole aux Maroliens, ils filment leur révolte et prennent fait et cause pour eux. On écoute Pierre Manuel et Jean-Jacques Péché.
C'était une œuvre politique. au sens fort du mot que vous avez réalisé là, parce que je crois que ça a eu des conséquences, votre film.
Je crois que c'était un travail politique, oui. Profondément politique. Mais je crois que qu'à l'occasion de la bataille des Marolles, et là, on a eu cette sensation très, très fortement.
Pierre Manuel.
Et c'est une chose qu'on nous a parfois reproché. Je ne dirais pas que nous avons eu l'impression que nous inventions de la matière politique, mais que tout de même, nous avons contribué d'une certaine façon à faire se développer, disons, les comités de quartier, les comités de défense.
Vent de révolte, vent de liberté, hein, on est en plein dedans. C'est un descriptif d'un quartier dans lequel, évidemment, la télévision n'avait pas l'habitude d'aller traîner.
Jean-Jacques Péché.
Et nous, c'était la force, et c'est là que j'ai découvert la force de Pierre Manuel aussi. Pierre aimait bien ce qu'un sociologue dira de nous plus tard en disant « apprendre à respirer l'air des gens », c'est-à-dire prendre le temps de rester avec les gens, de faire partie des meubles, d'être là dans le bistrot avec eux, de boire des verres, de discuter. Et là, vous découvrez des personnages, hein, tout doucement. Les gens vous payent un verre, vous payez un verre. On s'enivre même un petit peu, hein, pourquoi pas, ça fait partie de la vie, bien sûr. Et on découvre des gens extraordinaires. Et peu à peu, le facteur du coin, j'allais dire le facteur du village, oui, c'est un petit village. Le prêtre, le curé, etc. Tous ces gens, vous découvrez un petit microcosme. Et finalement, la bataille des Marolles, ben, ce n'est rien d'autre, j'ai envie de dire, que le portrait de ce microcosme à la lumière de cette révolte et de ce vent de révolte qui souffle à l'époque.
Si les Marolles échappent aux affres de la démolition et de l'expropriation, ce n'est pas le cas d'autres quartiers de Bruxelles. En 1970, soit un an après la bataille des Marolles, l'émission Situation, présentée par Jacques Brédal, fait le point sur les projets de transformation de Bruxelles, notamment dans le quartier Nord.
Nos villes sont en train de devenir inhabitables. Tout le monde sait qu'une remise à neuf, qu'un aménagement de l'espace urbain, comme on dit, est indispensable. Mais la rénovation doit, pour réussir, se faire selon un plan d'ensemble, pour tenir compte le plus possible des besoins de demain. Dans un système démocratique, la rénovation ne peut pas se faire contre la volonté des habitants, sans leur participation. Et là, semble-t-il, on est loin du compte. On a assisté ces derniers mois à une véritable levée de boucliers contre l'urbanisme du fait accompli, contre la rénovation imposée. Un des projets les plus controversés, c'est celui qui porte sur le quartier nord de Bruxelles, entre le canal, le boulevard d'Anvers, la gare du Nord, avec comme axe principal la chaussée d'Anvers. C'est un quartier moribond, victime d'un lent dépérissement depuis la dernière guerre et où des projets dont on parle depuis 20 ans ont empêché toute rénovation spontanée. Un quartier vieilli, pensionné en grand nombre, petits commerçants, tous attachés à un mode de vie traditionnel à l'écart du centre. Le commerce se meurt, l'habitat devient taudis, un taudis qu'on exploite souvent honteusement, on loue les chambres, parfois même les paillasses à la nuit. Il fallait faire quelque chose dans ce quartier, c'est évident. Et il y a un projet qui porte sur 53 hectares, pas moins. Un projet ambitieux, on fera de ce coin de Bruxelles un quartier de l'an 2000, le centre commercial, le nombril de la future capitale européenne, d'une métropole mondiale des affaires. C'est une entreprise de longue haleine. Les travaux s'étaleront sur 10 ans, entre 1970 et 1980. C'est une entreprise qui coûtera cher, si cher qu'il est impossible de chiffrer le total. Mais on dépensera 14 milliards, rien que pour le déjà fameux centre international de commerce, le World Trade Center.
Le projet de réaménagement du quartier Nord prévoit de construire, en grande majorité, des immeubles de bureaux. Quant au relogement de la population, les intentions des promoteurs restent floues et mal définies. On promet des appartements au loyer raisonnable ou des logements sociaux, mais les bâtiments tardent à sortir de terre. Petit à petit, les habitants sont chassés de chez eux et voient leur quartier disparaître. Les engins mécaniques détruisent non seulement les maisons, mais aussi le tissu social, une vie en communauté et la solidarité qui l'accompagne. Écoutez le témoignage de cette habitante du quartier Nord, recueillie en 1972.
On nous avait promis des habitations de 750 francs par mois, rue sans nom, rue Richard van der Velde, avec ascenseur et douche. Résultat, jusqu'à présent, il y a un an et demi que j'ai quitté le quartier, je n'ai pas encore vu un petit trou pour construire. Ils n'ont même pas encore été voler une seule brique ailleurs pour nous donner. Tout ce qu'on a vu, c'est le World Trade Center, le Manhattan, tout poussé comme des herbes. Mais pour nous, il n'y a rien, enfin. S'ils savaient qu'on devait partir, ils savaient qu'on devait déménager, pourquoi ne pas essayer, puisque nous vivions avec nos voisins? C'est peut-être dire beaucoup en famille, mais c'était quand même une famille qui habitait séparément, mais on se voyait. Ce simple bonjour de loin nous soutenait le cœur et le moral. Aujourd'hui, on nous enlève tout ce qui nous était le plus cher. C'était tout ce qu'on avait. Les voisins, nos amis depuis toujours, et on les enlève. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas construit d'abord ces maisons pour nous remettre en groupe dans des autres maisons? La peine aurait été beaucoup moins lourde, beaucoup. Parce qu'on aurait dit, on change de maison, d'accord, mais nous restons ensemble. Nous restons. Je sais pas expliquer. C'est réellement nous tuer vifs. Je sais pas. Notre cœur est brisé. On nous tue. Il n'y a pas des mots. Et j'ai souffert, pour moi personnellement, mais j'ai souffert pour mes voisins qui ont dû quitter. Il y a un an et demi que j'ai quitté. Je vis tous les jours, je viens de Laeken, revoir mon quartier, revoir, maintenant c'est fermé, le trou où j'ai habité. Le dernier souvenir, mon dernier souvenir qui me restait, ce trou, les briques où mon mari est mort, où mon mari... Alors on m'a dit au ministère, vous vivez avec des sentiments. Moi, je suis fière que j'ai des sentiments.
C'est encore des gens qui habitent dans le quartier maintenant et qui vont bientôt devoir partir.
Oui, monsieur, bien sûr.